votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Alexis Fricker.
Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Appel sur l'actualité, la libre antenne, ce sera dans une demi-heure. On va revenir notamment aujourd'hui sur le discours qui a été prononcé hier par le président Joseph Kabila devant le Parlement au Congo. Nous parlerons aussi de l'annonce de la candidature de Paul Biya pour briguer un nouveau mandat au Cameroun. Septième mandat potentiel pour l'actuel président camerounais. Et puis, ce qui a aussi retenu votre attention aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe du Monde de football dimanche dernier qui a vu le sacre de la France. Vous reviendrez évidemment sur ce que vous a fait ce sacre, sur ce que vous a apporté cette victoire, le bilan également de ce mondial qui s'est déroulé en Russie. Mais avant cela, les questions qui suscitent votre intérêt, les questions qui dominent l'actualité, à commencer notamment par le vote d'une loi en Israël par le Parlement. Bonjour Maki.
Oui, Alexis, bonjour et bonjour à tous.
Vous nous écoutez de Guinée, de Conakry, on vous écoute.
Exact, exact. Alors, le Parlement israélien a voté dans le courant de la semaine une loi portant sur l'État-nation qui vise à garantir le caractère juif de l'État d'Israël. Alors, Alexis, j'aimerais savoir pourquoi cette loi est-elle autant controversée et quel intérêt cela représente-t-il pour les autorités israéliennes. Aussi, et pour terminer, quelles conséquences cette loi votée par le Knesset pourrait-elle avoir sur les populations arabes en Israël?
Merci Maki, on va tenter d'y répondre avec notre correspondant permanent à Jérusalem, Guilhem Delteil. Bonjour Guilhem.
Bonjour Alexis, bonjour Maki.
Alors Guilhem, tout d'abord, quel est l'intérêt de ce texte pour le gouvernement Netanyahou, pour les autorités d'Israël?
Eh bien, Israël, il faut savoir, est un pays qui ne s'est jamais doté de constitution depuis son indépendance en 1948, mais seulement d'un ensemble de lois dites fondamentales. Et en fait, cette loi dite loi État-nation rentre dans le cadre de ces lois fondamentales qui définissent donc la structure juridique du pays. Alors, selon la droite israélienne qui est au pouvoir aujourd'hui, la vision du père de l'indépendance, David Ben-Gourion, celle qu'il a exprimée dans la déclaration d'indépendance donc le 14 mai 48, eh bien, elle n'avait jamais été formalisée. Elle entendait donc réparer ce qu'elle voyait comme une erreur de l'histoire. Mais c'est aussi pour elle une façon de combattre ce qu'elle qualifie d'activisme judiciaire de la part de la Cour suprême. Et c'est peut-être là l'une des motivations principales de la majorité actuellement. La plus haute instance judiciaire du pays est en général saisie sur les lois qui font le plus polémique. Et il arrive qu'elle les retoque, qu'elle censure des articles les plus controversés. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou n'a eu de cesse de dénoncer le pouvoir qu'ont ses juges face aux députés élus du peuple. Il fait donc passer une loi fondamentale qui désormais s'imposera aux magistrats de la Cour suprême. Et puis une autre motivation de la coalition était de s'assurer que le caractère juif d'Israël serait préservé sur l'ensemble du territoire. Et il existe notamment en Galilée, dans le nord du pays, des régions où la population arabe représente une importante proportion de la population de cette région. Et la droite nationaliste nourrissait des craintes de la voir ainsi devenir majoritaire dans certains endroits d'Israël, d'où l'introduction d'un article qui a suscité beaucoup, beaucoup de critiques. Celui qui aurait permis à l'État de créer des localités uniquement juives, il a finalement été retouché.
Alors dites-nous, Guilhem, pourquoi cette loi est-elle autant controversée aujourd'hui ?
Mais tout d'abord parce qu'elle est perçue comme une loi qui est faite pour affirmer la supériorité d'une partie de la population, la majorité par rapport à une autre. Il faut savoir que les Arabes israéliens représentent 18% de la population. Ils sont les descendants des Palestiniens restés sur les terres à la création d'Israël. Il y a une autre communauté aussi, ce sont les Druzes. Alors eux sont une toute petite minorité, représentent un petit peu moins de 2% de la population israélienne. Le texte tel qu'il a été adopté hier stipule que Israël est le foyer historique du peuple juif qui à lui seul le droit à l'autodétermination nationale, ce qui exclut donc les Arabes et les Druzes de ce droit à l'autodétermination. L'arabe, qui était jusqu'à présent une langue officielle, qui est parlée par les Arabes israéliens, les Palestiniens d'Israël, ainsi que par les Druzes, n'est plus aujourd'hui une langue officielle, mais elle conserve néanmoins un statut spécial selon cette loi, un statut qui reste néanmoins à définir, il n'est pas précisé par la loi. Et puis l'article le plus controversé, je l'évoquais, il a été modifié, il avait suscité des critiques, y compris au sein de la majorité. Le président, Reuven Rivlin, avait dit son opposition notamment à cet article-là. Alors le nouvel article, lui, il est plus flou, mais il cherche toujours à promouvoir des localités juives. Il stipule que l'État considère que le développement des implantations juives relève de l'intérêt national et que l'État prendra les mesures pour encourager, faire avancer et servir cet intérêt.
Et quelles pourraient être, Guilhem, les conséquences de cette loi à présent pour les populations arabes qui sont présentes en Israël, comme nous le demandait Maki tout à l'heure ?
Eh bien, alors pour l'instant, c'est une inconnue. Le statut spécial de l'arabe, je le disais, reste à définir. La langue, en revanche, pourra toujours être utilisée dans les administrations et donc dans les écoles aussi, mais sur les routes, probablement dans les rues ou sur les sites touristiques, il pourrait y avoir de plus en plus de panneaux écrits en hébreu uniquement. Alors, c'est déjà le cas de temps en temps, mais désormais, la population arabophone, eh bien, elle ne pourra plus s'en plaindre officiellement. La loi ne fait plus mention explicitement non plus de la possibilité d'établir des localités basées uniquement sur la religion de ses habitants, mais désormais, je le disais, le développement d'implantations juives relève de l'intérêt national. Alors c'est plus flou que cette première version, mais cela pose tout de même le principe d'implantation juive. Cela l'inscrit dans une loi fondamentale. En fait, c'est à l'usage qu'on verra comment ce texte est interprété, car je rappelle qu'il s'agit d'une loi fondamentale et que c'est donc sur ce texte, comme sur les autres lois fondamentales, que les juges de la Cour suprême prononceront le droit et peut-être, eh bien, que on arrivera à une interprétation plus restrictive des droits des Arabes. C'est en tout cas les craintes des détracteurs de ce texte.
Merci Guilhem Deltaï, merci pour vos explications. Guilhem, je rappelle que vous êtes correspondant permanent de RFI à Jérusalem. Il est 17h17, vos questions concernant l'actualité, on continue d'y répondre. Et on va s'intéresser maintenant à la Côte d'Ivoire, oui, à la Côte d'Ivoire, notamment à la situation politique. Bonjour Vincent De Paul.
Bonjour Alexis.
Vous nous appelez d'Abidjan, on vous écoute.
Alors, pendant la crise en Côte d'Ivoire, il y a eu la formation d'une coalition entre les partis politiques se disant le RHDP.
Oui.
Mais lors du congrès du parti unifié RHDP, on a assisté à la quasi-absence du PDCI au sein du RHDP. Alors, pourquoi le PDCI est-il réticent à intégrer le parti unifié RHDP ? Est-ce que les dissidents du PDCI soutenant le parti unifié RHDP seront-ils sanctionnés par leur parti ? Quelles seraient les conséquences politiques d'une éventuelle alliance entre le SPI d'Alphine Guessant avec le PDCI ?
Merci Vincent de Paul. On va y répondre maintenant avec notre correspondant à Abidjan, Sidi Yansané. Bonjour Sidi.
Bonjour Alexis.
Alors dites-nous tout d'abord pourquoi le PDCI est-il si réticent à intégrer le parti RHDP ?
Alors pour ça, il faut d'abord revenir sur l'histoire de ce RHDP. Il s'agit d'une coalition de plusieurs partis ivoiriens dont le vaisseau amiral se compose du RDR, le Rassemblement des Républicains du président Alassane Ouattara, et du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, la formation politique historique du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, qui est aujourd'hui dirigé par Henri Conan Bédié. Et cette coalition a vu le jour en 2005 pour faire face à Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, aujourd'hui derrière les barreaux à la Cour pénale internationale.
Et d'où vient la crise actuelle alors ?
Alors elle vient d'une différence d'interprétation du désormais célèbre appel de Daoukro. Il s'agit en fait d'une déclaration datant de 2014 dans laquelle Henri Conan Bédié appelle ses militants à se ranger derrière son allié Alassane Ouattara, qui était donc le candidat unique du RHDP à la présidentielle de 2015. Et ce qui a permis à l'actuel chef de l'État d'être reconduit pour un second mandat avec une victoire dès le premier tour. Alors cet appel de Daoukro, il est donc à la base des désaccords entre les deux alliés. Bédié estime avoir apporté son appui à Ouattara à la condition que ce dernier fasse de même en soutenant un candidat issu des rangs du PDCI pour la prochaine présidentielle qui est prévue pour 2020. Mais pour sa part, le chef de l'État répond que cette condition n'a jamais fait partie des termes de l'accord. Son vœu a toujours été de transformer la coalition RHDP en véritable parti politique dans lequel doivent se dissoudre toutes les formations de l'alliance, puis ensuite de désigner un candidat unique issu de ce nouveau super-parti. Mais Henri Conan Bédié, lui, refuse de fondre son groupe dans le RHDP tant qu'il n'a pas la garantie que c'est l'un de ses poulains qui se présentera à la présidentielle.
Et est-ce que les dissidents du PDCI pourraient se faire sanctionner désormais ?
Alors justement, les premières sanctions viennent tout juste de tomber. Le PDCI a envoyé un communiqué cette nuit pour donner la composition de son nouveau secrétariat exécutif. 6 membres ont été exclus, notamment des figures telles que l'ancien porte-parole de Henri Conan Bédier, Kobenan Kwasi Adjoumani, qui est d'ailleurs aussi le meneur d'un mouvement frondeur pro-RHDP au sein du parti. Et puis il y a aussi des ministres comme Fofana Siandou et Thierry Tano, respectivement ministres du tourisme et du pétrole. Ils avaient tous assisté à l'Assemblée générale constitutive de lundi dernier, qui a posé les bases de la création du parti unifié RHDP, et ce, malgré l'interdiction du chef du PDCI qui avait formellement demandé à ses militants de ne pas s'y rendre.
Et comme nous le demandait Vincent de Paul tout à l'heure, une autre question maintenant, quelles peuvent être, Sidi, les conséquences politiques d'une alliance entre le PDCI et le FPI ?
Alors, le FPI de Pascal Affine-Guessant, parce que le FPI est aussi très divisé, hein. Il y a ouais. Deux FPI un peu en Côte d'Ivoire actuellement. Donc alors, le FPI de Pascal Affine-Guessant, ce Pascal Affine-Guessant, donc le président du FPI, il s'est récemment exprimé dans la presse ivoirienne et il a clairement fait du pied à Henri Conan Bédier en l'appelant à une alliance, ce qui aurait pour conséquence de transfigurer le paysage politique ivoirien, car le PDCI entrerait de fait dans l'opposition pour contrer le RHDP. Mais le problème, c'est que le calcul n'est pas aussi simple, car le FPI, comme je vous le disais précédemment, est lui-même très fracturé. Le groupe dissident mené par Abdourahmane Sangaré est sur une ligne dure qui milite avant tout pour la libération du fondateur du parti, Laurent Gbagbo. Donc ces divisions feraient du FPI un allié assez imprévisible, avec beaucoup de mal à mobiliser.
Merci Sidi Yansané, notre correspondant à Abidjan. Merci également à vous Vincent de Paul d'avoir participé à l'émission et de nous avoir posé votre question. Il est 10h22. On va revenir maintenant sur une actualité qui a dominé ce qui a donc fait la une en France en début de semaine, en plus du sacre de l'équipe de France en Coupe du Monde, car il y a eu la libération de Jamel Begal, qui a été donc qui est sorti de prison et qui a été ensuite extradé vers l'Algérie. C'est ce qui vous intéresse, Regan. Bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous nous écoutez à Kinshasa en RDC. Jamel Begal, donc complice des attentats de Paris de janvier 2015, a été extradé vers l'Algérie lundi dernier, alors qu'il était emprisonné en Bretagne dans la prison de Vézin-le-Coquet depuis 2010. Quelles sont vos questions, Regan?
Oui, mais qu'est-ce qui explique la décision de la France de l'extrader vers l'Algérie? Et puis, sous quelles conditions l'Algérie a-t-elle accepté cette extradition?
Merci, Regan. Pour y répondre, nous sommes en ligne maintenant avec Driss Saïd Youssef. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
Vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci. Vous vous intéressez aux questions de sécurité. Avant de répondre directement à Regan, on va dresser de nouveau un peu le profil. On va rappeler qui est Jamel Begal.
Alors oui, donc Jamel Begal est connu pour être un peu le Ben Laden à la française. Il a inspiré à lui seul 3 générations, dit-on, de djihadistes. Son histoire, finalement, il est arrivé en France en 87 pour faire ses études. Il se marie dans les années 90 à une ressortissante française à qui il fait des enfants. Il acquiert ensuite la nationalité en 93. Puis très vite, il nourrit des projets islamistes terroristes, puisqu'il quitte le territoire en 97 pour se rendre en Grande-Bretagne, puis dans les années 2000 en Afghanistan, et c'est en 2001 qu'il est appréhendé aux Émirats Arabes Unis et qu'il est extradé vers la France parce qu'il nourrissait un projet d'attentat contre l'ambassade des États-Unis en France. Et donc c'est à ce moment-là qu'il est condamné à une peine de 10 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs terroristes, peine qu'il purge jusqu'en 2009. En 2006, puisqu'il est de nationalité française, le ministre de l'Intérieur de l'époque prend un arrêté de déchéance de la nationalité. En 2007, la déchéance étant acquise, le ministre prend un arrêté d'expulsion de l'individu. Et donc l'individu, à l'époque, était contre son expulsion, et donc il fait appel. Donc c'est une procédure administrative qui commence, c'est un parcours, puisqu'il fait appel de cette décision devant le tribunal administratif, devant la cour administrative, puis devant le Conseil d'État, et enfin devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Donc ça aura mis plus de 10 ans, tout de même, jusqu'à ce que l'expulsion soit concrète.
Alors oui, avec une étape très particulière, puisqu'au moment où sa demande est examinée par la Cour européenne des droits de l'homme. Il se trouve un peu, il est assigné à résidence le temps que sa demande soit examinée, et il est mis en examen dans un projet d'attentat, et il est à ce moment-là mis en mandat de dépôt. C'est la raison pour laquelle la Cour européenne des droits de l'homme n'a finalement pas examiné sa demande, donc il est à nouveau incarcéré. Il est à nouveau incarcéré, et ensuite c'est que très récemment, sa peine prenant fin, qu'il y a eu une procédure d'expulsion, puisque cet individu a été déchu de sa nationalité, procédure d'expulsion. Alors c'est toujours compliqué lorsqu'évidemment l'individu ne dispose pas de passeport algérien.
Il y a et c'est ce qui explique alors, c'est ce qui explique justement qu'il soit extradé aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a plus sa nationalité française, c'est ça?
Alors, il devait arriver au terme de sa peine, donc il a eu des remises comme n'importe quel détenu en France, des remises de peine, plus une vingtaine de jours dont on dit qu'ils sont exceptionnels, pour dit-on bonne conduite, mais entre-temps il y a des tractations assez intenses avec le gouvernement algérien pour l'expulser, donc c'est vraiment l'expulser. Alors il y a des tractations, pourquoi? Parce qu'il n'a plus de passeport, et donc il faut négocier un laissez-passer consulaire, ce que l'Algérie n'était pas obligée de fournir.
Donc il y a eu toute une dimension diplomatique en fait qui s'est jouée en coulisses entre le Quai d'Orsay et les affaires étrangères algériennes.
Absolument, c'est là où évidemment on quitte la frontière judiciaire, on quitte le domaine judiciaire pour aller dans le domaine diplomatique, puisqu'il y a des tractations, il y a des échanges, et c'est au terme évidemment de ces échanges qu'il a pu être expulsé, mais avec cette condition, c'est qu'il n'y a pas de dérogation possible à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Quel est cet article 3 ? Je reviens un petit peu en arrière, c'est important. Oui. La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas pu statuer, et parce qu'il était à nouveau incarcéré en France pour des faits de terrorisme, et si elle avait à se prononcer à ce moment-là, elle aurait très certainement rejeté la demande, ce qu'avait d'ailleurs fait le Conseil d'État, d'expulsion. Pourquoi ? Parce qu'il risquait, s'il retournait en Algérie, des traitements inhumains et dégradants. Or, aujourd'hui, les pays contractants de la Convention européenne des droits de l'homme interdit formellement le traitement inhumain et dégradant, ou l'expulsion d'un individu vers un pays dans lequel l'individu pourrait risquer sa vie.
Alors, c'est la raison pour laquelle... Oui. Monsieur Aït Youssef, c'est ce qui m'amène à la question que nous posait aussi notre auditeur Regan, une troisième question. Vu que les autorités algériennes ont annoncé, et comme le reprend l'agence de presse algérienne, elles ont annoncé qu'elles vont à nouveau juger Jamel Begal, pourquoi est-ce qu'il serait à nouveau jugé alors qu'apparemment il a été condamné à 20 ans de prison par contumace en Algérie déjà? Qu'est-ce qui pourrait désormais être réservé comme sort pour Jamel Begal?
C'est le procès équitable. Il a été condamné en 2003, me semble-t-il, ça devait être en octobre 2003.
Ouais,
il avait été
tribunal d'Alger, ouais.
Absolument, pour des faits de terrorisme. À l'époque, il avait lui indiqué qu'il n'avait pas pu prendre connaissance, qu'il n'était même pas informé de sa condamnation. Donc c'est probablement un échange entre les deux autorités, qui est de dire il a droit à un procès équitable, ça fait aussi partie de ses garanties, et donc il sera rejugé. C'est la raison pour laquelle, à l'heure où on se parle, il est très certainement en garde à vue en Algérie, qui peut durer jusqu'à 12 jours.
En matière de terrorisme,
et avec à la clé probablement un nouveau procès. Je précise que les autorités algériennes disposent d'un dossier extrêmement précis, puisqu'elles avaient demandé à l'époque l'extradition de Jamel Begal de la France vers l'Algérie. Donc c'est pour répondre à cette obligation, cette nécessité d'avoir un procès équitable pour n'importe quel justiciable, que les autorités judiciaires algériennes vont très certainement organiser un autre procès pour Jamel Begal.
Et très 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 rapidement, apparemment, selon des sources qui ont été citées également, l'Algérie pourrait n'être qu'une étape, puisque les autorités algériennes et françaises auraient conclu un marché pour que Jamel Begal aille dans un autre pays africain. Est-ce que c'est plausible ça ou pas ?
On ne sait pas bien. On sait qu'il y a plusieurs discussions. Les discussions liées à sa famille restée en Grande-Bretagne sont probablement rentrées en ligne de compte. La difficulté, on parle aussi d'échanges financiers ou en tout cas des défacements d'une ardoise, etc. On ne sait pas bien. On est dans le domaine diplomatique. Le domaine diplomatique est connu pour être très très sombre, assez opaque. Donc on ne sait pas bien. Je vois mal un pays africain confronté en ce moment à des risques de terrorisme avec un individu individu dont on dit, Jamel Begal, qu'il a tout de même un charisme, il a cette facilité, cette capacité à embobiner. Ouais. Je vois mal un pays africain accepter sur son territoire un individu qui poserait un problème grave pour l'ordre et la sécurité publique.
Je vous remercie.
Cette hypothèse, elle, pour moi, elle n'est pas très plausible. Voilà.
Je vous remercie, monsieur Aït Youssef. Merci d'avoir été avec nous. La Libre Antenne, c'est dans 10 minutes.